Une petite phase de remerciement, ensuite après. Après une petite demi-heure de questions-réponses, pas plus pour éviter de surcharger les charges sa main. Encore une demi-heure de boulot et puis 10 minutes de publicité avec les gadgets. Bon, alors là, d'accord, merci. Alors, tout d'abord, je veux remercier l'université Paul Sabatier. Au départ, il ne savait pas exactement à quoi il s'engageait. À célébrer le culte de Saint Ignatius. Excuse-moi, mais je suis bugué totalement. Donc je remercie les copains du culte qui sont vraiment défoncés pour l'organisation. Je remercie le CDT, le Centre des doctorants de Toulouse, ça, je ne peux pas entendre. Je remercie aussi Lucie Pagnac qui fait quand même beaucoup pour le logiciel libre, sur Toulouse en hébergeant notre machine. Je remercie aussi la mairie de Ramonville qui, depuis les années 96, héberge notre association, qui est quand même un des relais du logiciel libre dans le secteur. Merci à tous les copains qui ont, ont bossé pour organiser ça. Je présente mes excuses à ceux que j'ai froissés pour faire avancer un petit peu le sujet, pour qu'aujourd'hui on soit là. Donc maintenant on va commencer par les questions-réponses. Tu fais un micro, ok, tu fais passer. Bon, merci à Jean-Daniel, merci à Daniel Sidor, merci à Cathy, merci à Guillaume, à tous les autres, vraiment vous êtes défoncés, on vous remerciera à l'avance.
Respecte l'état libre des programmes libres évident.
Et par exemple, au niveau français, l'INRIA, en collaboration avec le CEA et le CNRS, c'est-à-dire les grands organismes de recherche en informatique en France, vient de sortir une nouvelle licence qu'ils ont appelée CECI.
Oui, cette licence est libre et contient un article qui le rend compatible avec la GPL. Donc, pas de problème non utilisé.
Et est-ce que, par exemple, si on crée des logiciels à l'heure actuelle en France sous licence CECI, est-ce qu'on doit les mettre sous double licence, c'est-à-dire GPL CECI?
Je n'entends rien. Il faut parler d'une manière très articulée.
Excusez-moi.
Tous les consonants, surtout.
Donc, je demandais si, à l'heure actuelle, si on crée un logiciel libre en France, qu'on le met sous licence CECI, est-ce qu'on doit lui prévoir une double licenciation, c'est-à-dire le mettre aussi en GPL à côté pour la sa diffusion mondiale?
Je suppose que ce sera une bonne idée. Oui, utiliser les deux licences en parallèlement.
Bonsoir. Je voulais savoir comment on faisait pour installer The Hub sur un ordinateur. Est-ce que c'est facile?
Je ne sais pas, parce que je n'ai jamais fait. Je ne travaillais pas sur The Hub. Je ne le faisais jamais. Ce n'était pas mon travail. C'était le travail des autres. Mais je ne vous suggère d'utiliser The Hub, sauf dans le cas où vous désiriez être être développeur de Word. Parce que pour l'utilisation ordinaire, Linux marche mieux que le Word. Non, parce que le Word aussi est un noyau. Linux est un noyau et le Word c'est un noyau. Les deux marchent dans le système nous. Mais maintenant, je compare les deux noyaux.
Pour une fois que Richard dit Linux.
Moi, je fais des bêtises, mais je ne crois pas que je l'ai fait cette fois-ci.
D'autres questions? Bonjour. En fait, mon logiciel tourne sur le programme Daniel. Donc, moi, je vais poser ma question.
Je n'entends pas.
Pardon.
Personne ne l'entend pas.
Ok. Mon logiciel tourne sur le matériel. Donc,
qu'est-ce
moi.
Que le logiciel quelque chose matériel.
Tourne sur un matériel. Donc, moi, je vais poser la question comment être libre d'acheter un matériel. Comment utiliser
la question de matériel libre, des objets physiques libres, ne se pose pas parce qu'il n'y a pas de copieuse pour les objets matériaux pour l'instant. Mais je propose une philosophie pour aujourd'hui. S'il y a un changement dans le contexte, peut-être des conclusions doivent changer aussi. Mais dans le contexte actuel, il n'y a pas de copieuse pour les objets matériaux. La question d'être ou ne pas être libre de les copier n'a pas d'importance. Et quant à la liberté de changer les objets matériaux, normalement, nous sommes libres de changer nos objets. Donc, nous sommes libres déjà jusqu'au point où c'est possible. Merci. Another question.
Je vais essayer de reformuler la question parce que je crains que vous n'ayez pas saisi. En fait, je crois que la question était plus sur comment pouvoir installer un système New Linux sur le matériel de notre choix, quel qu'il soit.
Sur le matériel de quoi? C'est une question technique. Moi, je ne suis pas l'expert, mais les groupes utilisateurs contiennent des experts.
Je pense peut-être que tu veux dire dans la question, c'est en rapport avec les nouveautés qui vont restreindre l'installation de systèmes avec notamment TCPA, Palladium et autre chose sur du matériel.
Est-ce que c'était ça la question? Oui, la computation déloyale, comme j'appelle, parce que il l'appelle computation confiable, mais confiable de faire quoi? Confiable de vous trahir. Donc, je l'appelle computation déloyale. Et c'est vrai que c'est une menace. Et je n'ai pas de réponse, à part peut-être qu'il y ait des pays dont les gouvernements seront à l'encontre et qui développeront des projets pour contrarier et pour nuire ce tentative de restreindre l'utilisateur. Parce que il s'agit d'un changement dans le fonctionnement de tous les ordinateurs nouveaux. C'est le plan, c'est l'intention de changer pour tous les ordinateurs nouveaux. Tels qu'ils n'obéissent plus aux utilisateurs, mais plutôt aux développeurs logiciels. Et cela, en soi, n'interdit pas l'utilisation d'un système libre. Mais il y a des détails qui peuvent être variés. Et selon ces détails, peut-être, il peut être impossible d'installer un système libre, ou il peut être facile comme maintenant d'installer un système libre, mais il y aura des choses que le système ne peut jamais faire. Par exemple, communiquer avec un autre programme dans un autre système. Ce peut être impossible. Donc, ça veut dire que la computation déloyale, c'est une manière de développer des programmes d'application qui communiquent entre eux de manière que qu'aucun programme libre ne puisse communiquer avec eux. Et comme ça, les utilisateurs seront d'une autre manière prisonniers de leur logiciel.
C'est un petit peu ce qui se passe sur les Xbox de Microsoft, qui ne sont que des PC sur lesquels on ne peut pas faire tourner ce que l'on a envie, donc New Linux, sauf si on passe par une phase de modification matérielle. Et là encore, même si c'est techniquement possible d'installer New Linux sur une Xbox, est-ce qu'il n'y aura pas des lois qui, dans le futur, nous interdiront de faire ce que l'on a envie avec un bien que l'on a acheté?
Mais aussi pour les applications. Par exemple, la version de Microsoft de la computation déloyale, qui s'appelait Palladium. Mais maintenant, je crois qu'ils ont changé quelque chose. Ils ont un autre plan maintenant. Mais j'ai vu une conférence au sujet de Palladium qui expliquait comment le plan était de pouvoir écrire. Chaque application pourrait écrire un fichier crypté de manière que n'importe quelle autre application, qu'aucune autre application puisse lire ce fichier sans être autorisée. Et comme ça, une application comme, par exemple, Word peut écrire des fichiers qui ne puisse jamais être lu par n'importe quel ami. Et c'est donc une conspiration pour vous ôter le contrôle de votre ordinateur. Et je crois qu'il faut être interdit. Un gouvernement démocratique interdirait, pas, il interdirait les périphériques pour faire le cryptage, ni pour la signature digitale, mais ce qu'ils interdiraient, c'est livrer l'ordinateur sans vous dire toutes les clés contenues dedans. Parce qu'il fonctionne comme ça. C'est un système général de cryptage, mais avec une clé que vous ne pouvez pas lire. Et vous pouvez la remplacer, mais l'ayant remplacé, le système ne fonctionne plus pour communication avec les applications dans les autres machines. Donc, remplacer la clé est possible en principe, mais à l'effet de détruire le système. Et la clé que vous ne pouvez pas lire et que vous n'osez pas remplacer, c'est le secret. Qui est secret, le secret du développeur, que vous, l'utilisateur qui a acheté la machine, ne pouvez pas savoir.
Ça résume bien le problème. Vous n'avez plus les clés de votre propre machine pour décider ce que vous pouvez y installer dessus, ou si vous prenez cette décision, votre machine perdra sa carte d'identité entre guillemets. Qui lui permet d'être compatible, de faire toute autre chose. Dans le cas de l'Xbox, par exemple, si vous faites tourner une minute dessus, vous perdez le droit, entre guillemets, de jouer au jeu en réseau sur les réseaux Microsoft parce qu'elle est reconnue comme une machine plus membre, entre guillemets. C'est pour expliquer un peu le problème. L'Xbox, c'est un PC. D'autres questions ?
Bonsoir. J'aurais aimé connaître votre sentiment sur les licences libres de type BSD. Pensez-vous pas que ce soit des licences qui soient réellement totalement libres?
Oui, bien sûr. Toutes les deux licences BSD sont des licences de logiciels libres. L'ancienne avait un problème pratique. La nouvelle n'a pas ce problème. Mais tous les deux sont des licences libres. Je ne suggère pas l'utilisation de ces licences parce que ces licences n'ont pas le gauche d'auteur. Le gauche d'auteur, c'est l'inverse du droit d'auteur. C'est le nom d'une technique que j'ai inventée qui exige que toute version modifiée soit publiée. S'il est publié, soit publié sous la même licence que l'original. Vous avez le droit de publier ou ne pas publier votre version modifiée. C'est ça le logiciel libre. Mais le gauche d'auteur exige que si vous publiez votre version modifiée, vous devez le faire sous la même licence, sans changement, sans restriction ajoutée. Et comme ça, nous pouvons nous assurer et vous assurer que quand notre code vous atteint, il sera libre comme la sortie de chez nous.
Bonjour, excusez-moi. J'aurais aimé savoir ce que vous pensez.
Moi, vite.
J'aurais aimé savoir ce que vous pensez.
Moi,
quelle est votre position, votre position sur, sur la démarche d'entreprise telle qu'Apple qui fournit des logiciels propriétaires avec des logiciels libres qui participent au développement du logiciel libre.
Quand Apple participe dans le développement de logiciels libres, Apple agit fait quelque chose de bon, de bon. Et quand Apple publie des programmes propriétaires, c'est mal. En lieu d'essayer de sommer les deux et mettre un jugement total, je voudrais plutôt juger l'un et l'autre séparément. Je trouve que juger chaque activité séparément est plus clair pour le public. C'est une position éthique plus claire.
Oui, je peux intervenir. Pour revenir sur le problème des licences, il y a un problème que j'ai vu récemment qui se pose apparemment en droit français, qui est que la GPL ne serait pas valide en droit français dans la mesure où elle ne respecterait pas le code de la propriété intellectuelle.
Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'appelle ça? J'espère que non, parce que l'expression propriété intellectuelle, c'est une expression de propagande et entraîne la confusion. Les gens qui confusent les brevets et les droits d'auteur ne comprennent rien. Et il faut ne jamais les confuser. Il faut refuser tout mot qui essaie de les joindre comme être une seule chose. Mais de toute manière, une étudiante de juridique a étudié la GPL et a publié que son avis, la GPL n'a pas de problème dans la loi française.
Même
moi, je ne suis pas expert, moi-même.
Et même s'il y avait un problème avec la loi française, je rappelle qu'on est dans l'époque de la mondialisation, il y a la convention de Berne entre les États-Unis notamment et en France. Si elle n'est pas applicable dans la loi française, elle est applicable aux États-Unis par la convention de Berne et applicable en France. Si elle n'est pas applicable, la personne perd tout droit d'utiliser le logiciel. Parce que s'il n'y a pas de licence, on n'a pas le droit d'utiliser par défaut.
D'accord, non, moi je parle de cette question parce que j'ai vu l'article d'un juriste qui dénonçait ce risque, et donc je voulais savoir ce qu'il avait été exactement.
Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas cet article, mais le seul article que je connais, c'est l'article d'un autre qui a dit qu'il n'y a pas de problème.
D'accord. Bon, c'était un problème spécifiquement français.
Quoi?
Apparemment.
Si le juriste en question s'appelle Alain Bensoussan, c'est un célèbre avocat de Paris, fort actif d'ailleurs dans la promotion des brevets logiciels, fort actif dans le dénigrement des logiciels libres, et donc qui dise ça ne m'étonnerait qu'à peine.
C'est un étudiant en droit. Il est dit dans la licence GPL qu'elle ne peut pas se substituer au droit national. C'est toujours vrai.
Quoi?
Dans la licence GPL que j'ai lue en français, il est dit qu'elle ne peut pas surpasser le droit national.
Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est vrai. Un contrat ne peut pas se substituer pour les lois. Et une licence qui utilise les lois ne peut pas se substituer pour les lois. La GPL et toutes les licences de logiciels libres utilisent le droit la loi de droit d'auteur. Mais, étant vu le traité de Berne, les lois de droit d'auteur sont ignorées partout.
Alors, je voulais peut-être compléter une information. Récemment, un tribunal allemand a accordé une injonction justement pour protéger un logiciel libre. Il s'agissait, je crois, d'un logiciel du Netflix qui était dans un routeur. L'entreprise qui utilisait ne voulait pas distribuer des sources, et le tribunal allemand a donné une injonction pour ça, pour forcer l'entreprise de respecter la licence du logiciel selon la loi allemande.
Oui. Donc, enfin, quelqu'un a prouvé la licence GPL dans la justice. Pas en France.
C'est un petit peu sur le sujet parce que c'est. Actuellement, il y a toute une jonglerie qui se fait avec les juridictions, les lois qui s'imposent ou non à des États, à des groupes d'États, à l'ensemble du monde, etc. Et il semble que systématiquement, quasiment partout, ce qui prime, c'est le droit le plus proche de l'individu, c'est-à-dire le contrat de gré à gré entre deux personnes ou entre deux entités de niveau privé.
Mais je n'ai rien entendu. Mais peut-être, si c'est une question juridique, je ne suis pas avocat.
C'est juste une suggestion. Il semble que les juristes, donc, mettent.
Mais je n'ai pas entendu.
Voilà.
Je n'ai pas entendu même les mots.
Les juristes, en général, un peu partout dans le monde, considèrent que le droit privé individuel et donc un contrat privé surclasse tout contrat d'État ou.
Oui, mais la GPL et la science de logistique ne sont pas des contrats.
Oui, je sais bien. Mais la question est là. Ma question est là. C'est est-ce que, un an ou un autre, il ne faudra pas en arriver à faire passer une sorte de contrat entre.
Non, pas avoir des contrats, parce que pour avoir un contrat, il faut obliger l'autre à signer le contrat de quelque manière. Et dans les manières ordinaires de distribution de logiciels, au moins de logiciels libres, il n'y a pas la manière de faire signer à l'utilisateur.
C'est la limite de la religion.
Cette question est trop spécifique pour je ne veux pas dépenser du temps ici à une telle question. Ce n'est pas utile ici.
Lorsque l'on veut acheter un portable en France ou à l'étranger, la plupart du temps, si on veut utiliser le logiciel libre, on est forcé de l'acheter. Microsoft comme système d'exploitation. Quels sont les moyens de lutter contre ça et qu'est-ce qui est mis en place?
Bon, c'est.
Ça marche très bien. Il y a plusieurs utilisateurs et acheteurs de portables qui ont d'abord demandé, qui ont cliqué non sur la licence d'acceptation des conditions de Microsoft ou tous les logiciels qu'ils avaient, et qui ensuite ils ont contacté leur fournisseur et ils ont dit j'ai cliqué non sur la licence, donc remboursez-moi. Bien sûr, jamais le constructeur n'a répondu. Donc ils ont fait un procès. Dans tous les cas, ils ont gagné jusqu'à maintenant. Sauf dans le cas où s'ils ne sont pas allés jusqu'au procès, c'est des Dell, je crois, qui leur a envoyé carrément un chèque avec de l'argent en échange d'essai. Faites un procès.
On prend les cinq dernières questions.
Bonsoir. Est-ce que vous connaissez s'il y a des démonstrations de l'utilisation des brevets sur le territoire américain contre les logiciels libres?
Oui, un exemple dont je me souviens, c'est que tous les programmes pour générer des fichiers de format MP3, tous les programmes libres ont été interdits aux États-Unis.
Bonjour. Est-il possible de développer du logiciel libre pour la plateforme .NET?
Pour le quoi?
La plateforme .NET.
Nous sommes en train d'essayer. suppose que c'est possible.
Bonjour, une question un peu moins technique. Que pensez-vous de Michael Moore et de José Bové?
Je suis d'accord pour la plupart de ce que Michael Moore dit, mais il ne va pas assez loin. Il critique Bush, mais il ne critique pas Kerry. Mais Kerry et Bush ont les mêmes positions. C'est vraiment dommage. Nous pouvons être certains que le prochain président des États-Unis sera un militariste qui appuie la domination des entreprises. C'est vraiment dommage. Sans savoir qui ce sera. Et José Bové, je connais seulement un peu de ce qu'il a dit et fait. Et ce peu que je connais, je suis plus ou moins d'accord, mais...
Bonjour, je voudrais savoir s'il y a quelque chose de prévu de la FSF pour protéger légalement justement tous les développeurs de logiciels libres.
Protéger légalement quoi?
Contre des procès, par exemple.
Je n'entends rien, tu dis. Il n'y a pas manière.
Thank you.
les pins bénis, des badges bénis, des autocollants divins, mais comme c'est gratuit, c'est moins béni, quoi. Bon,